Qualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Alexis Fricker.
La radicalisation des jeunes en Afrique de l'Ouest, un risque, mais aussi une réalité. Une étude a récemment été menée en banlieue à Dakar, mais le problème, évidemment, est bien plus large puisqu'il s'étend au-delà du Sénégal. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'Afrique de l'Ouest où la stabilité est menacée. On le voit évidemment avec l'attaque d'hier encore au Niger contre la prison de Koutou-Kale, avec la situation au Mali, mais aussi les attentats djihadistes depuis un an à Bamako, Ouagadougou et Grand Bassam. Alors, que constatez-vous au quotidien? Quels changements remarquez-vous dans les comportements de tous les jours? Quelles mesures sont prises par les autorités? Sont-elles suffisantes? Vous êtes nombreux ce matin avec nous à nous donner votre avis sur ce sujet. 33 9 693 693 70 et bien sûr aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur la page Facebook d'Appel sur l'actualité. En ligne avec nous, Mohamed de Conakry. Bonjour Mohamed. Et selon vous, eh bien d'un côté il y a l'application stricte de l'islam, de l'autre côté il y a la radicalisation violente et il faut bien opérer la distinction.
Oui, bonjour. Effectivement, personnellement, en Guinée, ce que l'on peut constater, c'est que les jeunes s'intéressent de plus en plus à la religion. Ils la pratiquent beaucoup plus que par le passé, mais pas forcément de manière radicale. Voilà.
Ils la pratiquent, c'est-à-dire qu'ils se rendent à la mosquée et ils vont simplement prier, en fait, c'est ça?
Voilà, ils se rendent dans la mosquée, ils vont simplement prier. Ils vont simplement prier et en plus se conforment beaucoup plus aux préceptes de l'islam, mais pas de manière radicale comme on peut le voir dans certains médias, comme ça se passe par exemple au Nigeria. En tout cas, le cas de la Guinée, nous n'avons pas cette radicalisation telle que on l'a fait croire. Voilà.
Alors vous, Mohamed, vous nous disiez au Standard que dans votre parcours, vous avez grandi en France et vous n'étiez pas religieux. Une fois de retour à Conakry, l'âge aidant, les réalités sociales aussi aidant, tout ce à quoi on est confronté au quotidien, ben là, vous avez eu tendance à vous tourner vers la religion. Est-ce que il y a une pression sociale, il y a un regard particulier qui fait qu'on se tourne vers la religion, qu'on devient pratiquant au bout d'un moment?
Ce n'est pas une pression sociale ou un regard particulier en tant que tel, mais avec l'âge et les problèmes justement de la vie, on est plus porté à se tourner vers Dieu, entre autres, et on a plus tendance à lui confier, si vous voulez, notre destinée. Voilà.
D'accord. Donc ça, c'est évidemment des préoccupations propres à, on va dire, à l'intériorité de chacun. Je vous remercie pour votre témoignage, Mohamed. Avec nous en ligne maintenant, Abderrahman à Bamako. Alors, Abderrahman, vous estimez que la lutte contre la radicalisation, c'est avant tout la lutte contre le chômage, plus particulièrement chez les jeunes?
Oui, Alexis, en fait, voilà, c'est juste pour abonder dans le même sens aussi avec que Mohamed. Mais je voulais ajouter au propos de Mohamed qu'effectivement, il y a les signes précurseurs de la radicalisation. C'est déjà cette idéologie radicale et qui amène effectivement à une radicalisation violente.
Et les signes précurseurs, quels sont-ils?
Voilà, les signes précurseurs, c'est ce qu'il venait de dire tout de suite. Nous voyons aujourd'hui que les jeunes de plus en plus s'intéressent s'intéressent déjà à la religion, mais de façon radicale, et notamment à travers le style vestimentaire, la coupe des cheveux. Et on constate aussi, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs jeunes qui sont même contre les courants déjà admis par la population. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, si je prends le cas du Mali, au sud du Mali aujourd'hui, malgré que le nord est exposé aujourd'hui en proie à ces groupes radicaux, mais le sud aussi n'est pas en réserve, dans la mesure où nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont en train d'amener des courants de pensée religieux qui sont carrément au diapason de ce qui était toujours connu dans nos pays. Maintenant, pour moi, il y a aussi le chômage, le taux de chômage très élevé de la population, surtout au niveau des jeunes. Il y a l'humiliation aussi due aussi à la pauvreté. C'est-à-dire que les gens sont tellement pauvres qu'ils sont humiliés. Et donc, la radicalisation devient comme une forme de refuge, un moyen pour eux de contestation de l'ordre déjà établi.
Et donc la précarité, Abderrahmane, ça fait le lit de la radicalisation.
Tout à fait, parce qu'en fait, ça leur donne un moyen, ça devient un refuge, ça devient un moyen de contestation, c'est-à-dire de ce d'ordre établi. Si un jeune qui est là, qui a 30, 40 ans, qui n'a pas d'emploi, qui n'a ni femme, qui n'a rien, et qui est exposé comme ça, et l'État ne fait rien pour lui, forcément, il a l'esprit déjà qui est vulnérable à ses prosélytes. Et donc, pour moi, il va aller vers ça, parce qu'il n'a aucun choix. C'est ça qui explique même, par ailleurs, l'immigration et les immigrations clandestines et tout ça. Parce que les gens n'ont plus d'espoir. Ils n'ont aucun moyen de survie.
Et c'est ce que nous dit, hein, aussi pour en revenir à la pauvreté, l'étude de Bakary Samb, hein, dont je vous parlais en introduction de ce débat, donc sur les facteurs de radicalisation chez les jeunes dans la grande banlieue de Dakar, étude qui a été menée auprès de 400 jeunes de 18 à 35 ans. En effet, un tiers de la population des jeunes interrogés en banlieue de Dakar est au chômage. Et pourtant, ces jeunes ont été scolarisés à 90%, ils ne trouvent aucun débouché. La question, c'est donc comment encadrer, comment mieux intégrer ces jeunes à la société, comment s'occuper d'eux, tout simplement. Et on va tenter de répondre, en tout cas on va essayer d'avoir des éléments d'éclairage avec notre prochaine auditeur, Eladj, bonjour.
Bonjour Alexis.
Vous êtes, vous, à Guédiaouaï. Vous êtes né et vous avez grandi dans cette banlieue de Dakar. Et ce qui est intéressant, vous, notamment par rapport aux jeunes, c'est que vous avez créé et que vous faites toujours partie d'une association qui s'appelle Banlieue Up. Et vous aidez les jeunes. En tout cas, vous essayez d'apporter des réponses, de les encadrer concrètement. Quelle est votre action ?
Merci beaucoup Alexis. En fait, nous, notre mission, c'est d'encadrer, d'orienter, d'aider les jeunes à développer les capacités de leadership, de développement personnel et de redonner espoir à ces jeunes qui, bien évidemment, ont besoin d'être orientés, d'être soutenus et d'être rappelés qu'ils doivent réussir et qu'ils peuvent réussir.
Et alors,
c'est pour cette raison qu'on a mis en place Banlieue Up qui agit dans ce sens-là, qui compte plus de centaines de jeunes de Pikine et de Guédiaouaï justement.
Et alors comment se passe votre accompagnement au quotidien justement pour finalement donner une certaine confiance, pour encadrer ces jeunes-là et tout simplement les porter vers l'avenir ?
Ben écoutez, nous avons constaté qu'il y a un gap, il y a vraiment un fort besoin de parce que les jeunes ont beaucoup de temps. Bien évidemment, il y a la problématique de chômage des jeunes qui existe.
Oui.
Il fallait bien entendu contribuer à la réduction de ce chômage. Il y a une grande stigmatisation et une marginalisation des populations de la banlieue. Et c'est pour cette raison aussi que je me fais plaisir de participer à cette émission. Parce que les résultats de l'étude de Timbuktu, que je respecte beaucoup, et Michel Sand, c'est ce qui dit que près de 10% des jeunes de la banlieue sont prêts à se radicaliser.
Oui, et moi, donc à intégrer un groupe radical, oui. Voilà, c'est ça.
Effectivement, moi je me dis que ce sont des informations extrêmement dangereuses, qui font extrêmement peur, et bien entendu qui remettent en question nous, notre responsabilité à nous tous. Et j'ai aussi organisé les 30 et 31 août passés à Dakar, dont Timbuktu était impliqué, un atelier national de lutte contre la radicalisation violente et la sensibilisation des jeunes par le libre ensemble. Mais à aucun moment, on a vraiment entendu des cas de radicalisation, d'extrémisme violent pour les jeunes habitant la banlieue. Après avoir né et grandi dans cette zone, je me dis vraiment que ce chiffre est quand même extrêmement haut et même, à mon avis, c'est une information tellement grande qu'il faille donner ça simplement aux autorités. Le risque, il est partout, ça c'est sûr.
Le risque, on l'a compris, donc Eladj, ce sont ces préjugés négatifs, cette stigmatisation et peut-être aussi des chiffres qui sont donnés, dites-vous, par cette étude qui pourraient peut-être tout simplement inciter d'autres jeunes, pourquoi pas, à vouloir se radicaliser, en tout cas à se tourner vers une religion, vers une pratique de la religion un peu plus radicale. Il y a plusieurs commentaires sur la page Facebook d'Appel sur l'actualité qui vont en ce sens, notamment l'accompagnement des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Il faut d'abord connaître et traiter les causes, nous dit Gorvano. Et puis Eugène, lui, estime tout simplement que la radicalisation des jeunes est due au refus délibéré des autorités de créer l'emploi à la jeunesse. Et puis pour Roger, lui, plus globalement, ce sont les inégalités sociales qui sont les facteurs du radicalisme, notamment le taux de chômage de plus en plus important qui ne cesse d'augmenter et pas d'encadrement de la part des jeunes. On retrouve à 10h50 sur RFI, c'est toujours le débat consacré à la radicalisation, au risque de radicalisation des jeunes en Afrique de l'Ouest. On retrouve en direct avec nous maintenant Papa, vous êtes sénégalais et vous vivez à Nouakchott. Papa, vous ne croyez pas tout simplement à ce rapport qui a été mené sur la radicalisation, les facteurs de radicalisation en Afrique de l'Ouest chez les jeunes, tout simplement parce que les jeunes sont attachés aux confréries qui sont très puissantes, qui cimentent l'islam au Sénégal.
Alors bonjour. Effectivement, moi je ne crois pas à ce rapport, enfin aux chiffres qui sont avancés. Parce qu'au Sénégal, il y a plusieurs confréries qui sont solidement et largement implantées à travers tout le pays. Il y a le Mouridisme de Cheikh Amadou Bamba, Khadim Rossol, qui est basé dans le Baol, à Touba, Djourbel, Mbaké. Il y a le Tidjanisme, Kivavone, sur le Dakar-Saint-Louis. Il y a le Khadria de Cheikh Saad Boukhayratou, de Saint-Louis à Nimzat, en Mauritanie. Il y a les Laïens de Seydina Issa Laïc dans toute la presqu'île du Cap-Vert.
Oui, donc toutes ces confréries, en fait, si on vous comprend bien, papa, elles permettent d'être une espèce de garde-fou face au risque de radicalisation pour garder les jeunes dans un certain cadre, les éviter de dériver.
Bien sûr, parce qu'il y a permanemment des manifestations religieuses. Et la plupart de ces jeunes, ces talibés, ils ont fait des études coraniques. Ils ont été éduqués, élevés et même formés professionnellement dans les daras, particulièrement chez les Mourides, qui est la confrérie dominante au Sénégal.
Oui.
Quand bien même que les khalifs, et en particulier le khalif général des Mourides, n'aiment pas qu'on fasse une distinction entre les différents musulmans, en disant celui-là est Yann, l'autre est Mouride. Ça, je tiens à le préciser.
Ouais, tous les musulmans sont égaux, ils pratiquent tous l'islam. Et vous nous dites aussi que les marabouts, eux, veillent à ce que le discours ne change pas, en fait, que le discours soit égal et place aussi sur un même pied d'égalité tous les jeunes, d'où qu'ils viennent, et quelles que soient leurs activités, finalement.
Absolument. Et qu'il soit un discours de paix. C'est un discours de paix. Serigne Touba a combattu par la paix, avec son chapelet, ses versets. Et avec le Coran,
oui.
De même que les autres dirigeants. Bon, moi je pense que les rares jeunes chômeurs sénégalais, où les djihadistes peuvent recruter, à mon humble avis, sont très inférieurs aux chiffres avancés de 10% ou bien d'un tiers.
Très bien, je vous remercie de votre témoignage, papa. On retrouve un autre Sénégalais, un Dakarois, Claude, qui est en ligne avec nous. Alors, Claude, vous vous dites surpris un peu par l'étude qui a été menée par Bakary Samb. Mais ce que vous mettez, vous, en avant, c'est qu'il y a une cohabitation religieuse au Sénégal qui existe bel et bien. Et je précise que vous êtes chrétien pratiquant.
Donc, bonjour Alexis, comme vous l'avez dit, je suis bien chrétien pratiquant. Et je commence par dire que je souscris à ce qu'ont dit mes deux prédécesseurs. Parce que franchement, au Sénégal, par rapport à ce qu'a révélé cette étude, moi je suis vraiment surpris. Parce que ça ne se sent pas dans cette population sénégalaise. Et à aucun niveau dans ce pays, on peut parler de radicalisme des jeunes. Maintenant, peut-être ce qu'il ne faut pas occulter, c'est que l'influence peut toujours venir de l'étranger. Comme je l'ai dit au standard. Donc ça, c'est une réalité aussi, parce qu'on connaît tous les réseaux djihadistes et la manière dont ils procèdent. Et c'est là où j'ai envie de lancer un appel à nos guides religieux et à nos jeunes. D'abord à nos guides religieux, de continuer à éclairer les jeunes sur la religion, parce que religion ne peut pas rimer avec la violence. Et aussi...
Et surtout, Claude, également, quand vous dites qu'il y a un risque tout de même présent de cellules djihadistes, de cellules dormantes, tout cela, en tout cas, j'ai l'impression que les autorités sénégalaises, depuis quelques mois, en tout cas sur la fin de l'année dernière, ont montré qu'elles étaient attentives à ce problème, qu'elles tentaient d'y réagir, puisque de nombreux imams, des prêcheurs ont été arrêtés pour leur proximité avec des milieux djihadistes, hein, et les autorités ont aussi renforcé la surveillance sur plusieurs sites sensibles de la capitale sénégalaise. On retrouve à 10h55, c'est toujours le débat sur RFI, on retrouve Aminatou, vous êtes à Dakar. Alors vous dites justement, Aminatou, que le gouvernement agit, mais que malgré tout, il ne faut pas que l'action gouvernementale contre les risques de radicalisation soit un prétexte pour restreindre des libertés fondamentales.
Oui, exactement, Alexis. Je voudrais d'abord commencer par dire qu'il ne faudrait pas négliger les signes et l'étude qui a été menée par Timbuktu Institute. Ce n'est pas en niant la réalité qu'on va y arriver. Et je pense qu'il y a une radicalisation rampante, sans parler de quelque chose de massif ou qui est représentatif de la jeunesse sénégalaise. Mais ce sont des signes à ne pas négliger, parce que c'est comme ça, en étant négligent, que ça a basculé au Mali et qu'on a eu les attaques qu'on a vues au Burkina et en Côte d'Ivoire. Donc il faudra vraiment être vigilant. Maintenant, la lutte contre le terrorisme, le radicalisme ne devrait pas être un prétexte, évidemment, pour stigmatiser et pour nier les libertés individuelles. Et je pense que c'est ça qui fait le plus peur, c'est que sous prétexte de terrorisme, de lutte contre le terrorisme, on terrorise des populations, qu'on pointe du doigt des gens qui ont choisi de vivre leur religion selon leur conception de ce que devrait être un musulman. Tant que cela n'est pas imposé à une majorité, cela n'est pas imposé de façon violente et que cela ne conduit pas à des attentats, c'est tous les musulmans qui vivent leur religion comme ils pensent être la meilleure façon de le faire, ne sont pas des terroristes. Et je ne suis pas sûr que des fois les États réagissent de façon raisonnée ou raisonnable.
Il faut que la pratique de la religion, Aminatou, se fasse en bonne intelligence dans la société, qu'elle soit intégrée et que le gouvernement soit là, que les autorités, même religieuses également, soient là comme des garde-fous. Je vous remercie pour votre témoignage, Aminatou. On retrouve Alpha Amadou en ligne avec nous de l'Abbé. Et vous pointez tout particulièrement qu'en Guinée, à Conakry, certains prêcheurs que vous ne connaissiez pas, en tout cas dans le quartier, essayent, eux, de communiquer dans les mosquées avec des discours bien précis.
Oui, bien entendu, nous assistons à un phénomène nouveau ces derniers temps. Vous voyez des gens venir en nombre, des fois ils dépassent 10, et venir passer des jours dans des mosquées, et jour et nuit, ils font des prêches et ils rentrent dans le quartier, ils demandent aux jeunes de partir assister à leur prêche. Donc il est temps qu'on fasse beaucoup attention, parce que la laïcité aujourd'hui ne veut pas dire un laisser-aller total. Et en Afrique de l'Ouest, nous assistons à la fertilisation de cette zone pour les terroristes. Et donc, à mon avis, il y a le terrorisme économique et le terrorisme religieux. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus compliqué de contrôler le terrorisme économique, parce qu'il y a la pauvreté est là, les jeunes ne travaillent pas. Et donc, avec un petit quelque chose, et ils peuvent facilement accepter et accéder à ce que les gens leur demandent, parce que ces gens qui viennent dans ces mosquées-là, ils viennent avec des ustensiles, ils préparent dans les mosquées, et quand vous les voyez, vous-même vous allez vous dire qu'ils ne peuvent pas à eux seuls et avoir ces financements-là. Donc il y a certainement des investissements laïques qui viennent de quelque part, et puis facilement, on peut les assimiler à des cellules dormantes.
Et d'autres financements. Je vous remercie, Alpha Amadou. Et cela rejoint d'ailleurs ce que nous écrit Draman sur la page Facebook d'Appel sur l'actualité. Selon lui, on devrait chercher avant tout qui finance les terroristes. Et cela expliquerait peut-être la radicalisation des jeunes. Merci d'avoir participé au débat d'Appel sur l'actualité sur l'antenne de RFI. Dans une minute, ce sera l'heure d'un nouveau journal. Je vous annonce déjà le thème de demain. On parlera de la la Centrafrique et de la vague de violence, de l'instabilité chronique malgré l'élection du président Touadéra. Et puis la fin annoncée aussi dans deux semaines de la force française Sangaris.
Vous avez suivi Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, solution de transfert d'argent accessible depuis votre mobile au dièse 144.